CV avec Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
Bien le bonjour dans l'heure CV, 10h01, j'espère que vous allez bien. On est ensemble jusqu'à 11, mon nom est Pascal, je m'installe en studio avec vous. Comme à chaque jour, en fait, du lundi au vendredi, Boulevard 102.1, c'est une programmation multiple. Hein? On a une couple d'émissions à vous présenter, puis celle-ci ben, dure une heure avant Marceau le midi. Pour les habitués, 418-971-1021 pour me rejoindre en studio, sinon le twitch.tv/BLVD/FM. Est-ce qu'on a une seule personne qui est nouvelle, que c'est la première fois qu'il entend ma voix? 418-971-1021. Cette personne-là, je veux mettre le doigt dessus. Je veux savoir qu'elle existe. Ou encore sur Twitch, y a-t-il quelqu'un que c'est la première fois qui vient de se brancher? Bienvenue dans l'heure CV à moins 3 degrés à l'extérieur. Bien, c'est pas mal des nuages qu'on a sur la capitale nationale. C'est nuageux, oui, parce qu'on attend de la neige intermittente aussi dans certains secteurs. 1 degré, c'est le maximum pour aujourd'hui. Ce soir et cette nuit, c'est confortable. Moins 1 degré, faible neige intermittente. Demain, vendredi, on se branche pas. On sait pas si ça va être des averses de neige ou de pluie pour la capitale nationale parce qu'il va faire 4 peut-être selon où est-ce qu'on habite. Il y a une auditrice qui me suit depuis quelques années. Je vais fêter mes 10 ans de radio en mai prochain. Ouh, ça va vite! Elle se rappelait que souvent j'allais avec des citations qui ont marqué le monde, que ce soit un Winston Churchill lors de la Deuxième Guerre mondiale ou autre. J'aime ça aller chercher des petites citations de personnages qui ont marqué l'histoire. Puis, j'ai fait ça longtemps, en dire une par jour dans toutes les émissions que je faisais. Et puis, elle m'a demandé si c'était possible de le ramener. Puis, un de mes favoris, justement, c'est Winston Churchill, qui a déjà dit « On vit de ce que l'on obtient, mais on construit sa vie sur ce que l'on donne. » Et j'adore cette phrase-là. « On vit de ce que l'on obtient, mais on construit sa vie sur ce que l'on donne. » Je pense que c'est une phrase qu'on doit se mettre dans la poche. Alors voilà pour l'auditrice qui est à l'écoute, bien sûr, puis qui demandait s'il y avait possibilité de ramener ces petites phrases-là en début d'émission dans leur CV. Aujourd'hui, on va aller parler à Patrick Mathieu, expert en sécurité informatique, entre autres, parce qu'on se rend compte que bien les Chinois, la Chine a recommencé ses activités économiques en trombe. Et il y a une des plus grosses firmes de sécurité qui a déroulé le tapis rouge à tout ce qu'on appelle le fabricant chinois de caméras de surveillance. Rappelez-vous, on avait parlé de la firme Hikvision qui est commanditaire de bien des endroits et aussi que c'est une des entreprises où on achète le plus de caméras de surveillance, mais parce qu'elles sont peut-être un peu moins chères, proviennent de la Chine et il y a des enjeux importants en arrière de tout ça. Et là, la firme Hikvision est commanditaire d'un gros congrès qui a lieu à Laval en avril. Et on se pose des questions à savoir si on avait à être un peu plus pris, un petit peu plus mon Dieu, c'est rare que je cherche mes mots comme ça. On devait être un peu plus sécuritaire peut-être dans le choix de l'entreprise qu'on souhaitait avoir pour justement ce gros congrès-là. Mais c'est une des grosses firmes de sécurité au pays, là, dont Garda World, qui a déroulé le tapis rouge à un controversé fabricant chinois. Puis on avait déjà parlé de ça à l'automne. Donc, est-ce qu'il faut faire attention un petit peu plus? Là est la question. Puis Patrick Mathieu va venir nous parler un petit peu plus tard à l'émission. Autre chose aussi, c'est l'intelligence artificielle qui est entrée à la bourse. Fascinant, ça, le choc entre justement la technologie et les finances. Et il y a des campagnes contre le piratage qui donnent encore plus envie à certaines personnes de pirater. Donc, trois sujets importants qu'on va aller explorer avec Patrick Mathieu aujourd'hui à l'émission. Mais là, je pense qu'on va aller se couler un petit café, le temps de faire leur CV ensemble. C'est avec Rouge Pompier qu'on va aller faire ça. Merci d'avoir choisi le 102.1. Merci d'être là. Et puis, on se retrouve dans un instant.
Leur CV avec Pascal CV.
Je commence à recevoir vos salutations. Merci beaucoup de le faire au 418-971-1021. Juste adresser que Twitch, ces jours-ci, entre les émissions, il faut faire un refresh sur votre ordinateur si vous voulez y accéder. Il y a des gens qui manquent les débuts d'émission parce qu'ils ne le savent pas. Je ne sais pas pourquoi Twitch fait ça. Je sais qu'il y a des auditeurs aussi qui m'ont mentionné que du côté du bureau, il avait comme été barré. On peut faire des blagues, mais si vous ne suivez pas des émissions de radio sur Twitch, ça se peut que c'est un peu plus funky ce que vous regardez vos employeurs le bar. Là. Mais sinon, c'est à parler parler avec eux. Plus tard à l'émission, j'aurai deux paires, ben en fait une paire de billets à faire gagner pour le 27 mars prochain au All Elite Wrestling qui s'arrête dans la ville de Québec au Centre Vidéotron. Il va y avoir les lutteurs de Dynamite et Rampage sur place. Restez dans l'émission, restez dans leur CV. On a appris ce matin que Québec va présenter son budget officiel le 12 mars 2024. Ça s'en vient. Donc, le budget Girard, on va pouvoir l'éplucher de fond en comble. On sait qu'il sera déficitaire, ça a déjà été annoncé. Et le ministre des Finances, Éric Girard, va pouvoir justement en parler énormément lors du mardi 12 mars prochain. Ça va se faire à l'Assemblée nationale. On dit que les priorités déjà là, sont épinglées, on s'en doutait. C'est la santé et l'éducation. Donc, déficit qui sera revu à la hausse aussi, on s'en doutait. Et en raison justement, selon le gouvernement, qui aime beaucoup mettre le doigt là-dessus, selon les accords conclus avec les syndiqués du secteur public. Encore là, moi, j'ai de la misère avec ces phrases-là parce que je me dis, bien, les conventions collectives étaient échues. Donc, assurément qu'il fallait les signer, il fallait en revoir. Et c'est sûr qu'avec le temps, l'inflation et autres, bien, les salaires montent de toute manière. Il faut aller rechercher ce qu'on a perdu à travers les dernières années. Donc, c'est un peu spécial de livrer le déficit de cette manière-là. Là. Il y aura des dividendes aussi moins élevés que prévu pour Hydro-Québec. Là. Alors, ça va peser lourd sur le dit budget du Québec le 12 mars prochain. C'est là où on va le présenter. Service de garde aussi, les moyens de pression sont commencés pour 13 000 travailleurs et travailleuses. C'est de très, très difficiles négociations en ce moment pour le secteur public. Là. Une autre négociation ardue, possiblement conflictuelle, qui va s'amorcer avec 13 000 travailleurs travailleuses dans les services de garde en milieu familial et dans les CPE. C'est pas les parents qui auront été les plus épargnés cette année. Imaginez avoir eu un enfant à l'école et là, un enfant au service de garde. C'est toute une année de branle-bas de combat pour essayer de trouver comment on va les occuper si jamais c'est fermé. Mais sachez que justement, là, il y a une négociation assez difficile qui commence pour ces travailleurs et travailleuses en service de garde. Dossier extrêmement intéressant de Radio-Canada, on parle de fermes québécoises qui sont victimes de fugues, là on le met entre parenthèses, clandestines. En fait, il y a des réseaux organisés qui profitent d'un programme qui est destiné aux travailleurs agricoles là, qui viennent ici. On veut les amener à nous aider justement pour la pénurie de main-d'œuvre à travailler dans nos champs, mais il y a un réseau qui les amène illégalement. Donc, des Guatémaltèques aux États-Unis, à travers le Québec, qui ont planifié des passages là, à des milliers de kilomètres du Canada. Et quand ils arrivent, ben, ils partent aussitôt. Donc, au cours des derniers mois, c'est des centaines de travailleurs guatémaltèques qui ont été recrutés par des fermes et des entreprises agricoles d'ici, québécoises, qui ont quitté après leur entrée au Canada. Donc, c'est un peu particulier parce que bon, ces employeurs-là se retrouvent sans personnel. Ils ont fait des démarches coûteuses en certains cas, difficiles également, puis au final, ils ne sont pas remplacés par d'autres travailleurs qui vont venir. Donc, ces fugues-là causent énormément de problèmes, puis au-delà de ça, c'est administratif aussi. Là. Ils ont l'impression, pour les employeurs, d'avoir été utilisés, mais aussi dans tout ce qui est gouvernemental, bien, comment est-ce qu'on remet la main sur ces gens-là? Comment est-ce qu'on est capable de contrôler les arrivées, somme toute massives, si jamais tout le monde se décidait à aérer les terres agricoles pour lesquelles on les avait amenés à venir ici? Alors, si vous avez des questions sur l'actualité aujourd'hui, je ne pense pas que c'est sur ces dossiers-ci, mais peut-être sur le dossier des milléniaux qui surpassent les baby boomers au Canada. Alors, c'est fait, c'est la fin d'une époque. Les milléniaux sont maintenant plus nombreux que les baby boomers. C'était la génération la plus importante depuis 65 ans. Et c'est pas uniquement parce qu'ils décèdent, là, mais plutôt parce que l'immigration est principalement constituée de jeunes adultes milléniaux. Donc, si c'est la génération qui vous tape sur le runner, sachez qu'ils sont encore plus présents dans vos rues. Mais c'est de la bonne main-d'œuvre qui fait rouler l'économie le plus possible. Et dans leur CV, on parle à Patrick Mathieu. Au retour, restez là.
Avec Pascal CV.
J'allais faire une farce avec... Verriez-vous, vous, un ministre de la Santé en mauvaise condition de santé, en surplus de poids, immense obésité, ou encore qui fait la... valorisation du beurre à chaque repas, mais comme la demi-brique sur sa toast. J'allais faire ce joke-là, finalement, je vais me retenir, parce que peut-être que dans le passé, on a vu des choses du genre. Mais je veux faire un parallèle avec une nouvelle importante dans l'actualité aujourd'hui. Puis on avait déjà parlé de Hikvision, cette entreprise de caméras de surveillance qui provient de la Chine et qui était un peu, douteuse sur l'enjeu de la sécurité, là, de le ramasser d'informations qu'on pouvait envoyer du côté de la Chine ou encore des réseaux peut-être qui étaient accessibles, on ne sait pas, mais ça a été banni par le gouvernement, en fait. Hikvision a été banni, on n'utilisait plus tout ce qui est caméra de cette entreprise-là ou encore apport technologique. Et ce qu'on apprend aujourd'hui par le bureau d'enquête du Journal de Québec, c'est que les plus grosses firmes de sécurité ont déroulé ce qu'on dit un tapis rouge là, à ce controversé fabricant chinois de caméras de surveillance. C'est à se demander comment est-ce que ça se peut qu'une entreprise ou encore qu'une des plus grosses firmes et sociétés du pays en sécurité informatique ou en sécurité point, comme Gardner-Wall, n'a pas fait en sorte de proscrire tout ce qui est Hikvision. Pour en parler, on a notre chroniqueur en sécurité informatique au bout du fil, Patrick Mathieu, salut.
Bon matin.
Comment est-ce qu'on explique ça? C'est un peu risible, non, comme situation, mais on rit jaune, là?
Bien, c'est jaune, mais en même temps, c'est pas la première fois. Je veux dire, l'année passée, on en parlait sur notre podcast, on essayait d'en parler dans les nouvelles, mais ça n'a pas levé, là. Et là, parce qu'évidemment, le gouvernement du Québec a banni l'entreprise. Puis il y en a d'autres, là. Ça, c'est la plus grosse. Mais tu sais, Dahua est là, puis il y en a certaines autres qui sont sûrement chinoises et, ou similaires qu'on connaît pas. Mais l'entreprise en arrière de ça, Canasa, c'est une entreprise qui fait des événements partout au Canada de sécurité physique. C'est pas comme la Access, là, en termes de...
Pas de la sécurité informatique, mais plutôt civile. En fait, on protège les gens, là.
Oui, c'est ça. D'où le pourquoi des caméras de sécurité. Je veux dire, le concept de caméra fait du sens. Mais quand tu invites en tant que partenaire principal, Diamant, pour être exact, le partenaire qui est inclus dans la politique internationale comme quoi qu'ils font ou potentiellement peuvent faire de l'espionnage, que les États-Unis les ont bannis, que ça fait 2 ans que tu les invites pour avoir de l'argent, c'est pas fort.
Là. Oui, rappelons, Patrick, en fait, là, pourquoi est-ce que Hikvision était visé et banni dans plusieurs endroits? Parce que c'est particulier de savoir que, justement, c'est le commanditaire principal d'un gros événement comme ça de sécurité là, physique du côté de Laval. Mais bon, on peut penser que c'est une question d'argent. Probablement, Hikvision a mis énormément d'argent pour pouvoir faire en sorte que cet événement-là se passe. Mais rappelons qu'en décembre, Québec avait banni le fabricant de caméras chinoises parce qu'on le suspecte finalement de peut-être aller chercher de l'information de notre côté par justement ces caméras-là.
Oui, exact. La majorité des entreprises qui ont des liens en Chine sont susceptibles de se faire techniquement réquisitionner par leur gouvernement les données ou d'utiliser leur système pour s'introduire dans les entreprises qui ont les caméras ou peu importe l'application installée. Avec ou sans autorisation. Là. Je veux dire, la Chine fait ça. Il y a plusieurs preuves que la Chine s'introduit dans des milliers de systèmes tout le temps. Et Hikvision est aussi considéré extrêmement vulnérable. Une caméra avec plein de vulnérabilités là, au niveau informatique dans leur application. Ça a été utilisé souvent pour faire des intrusions, pour faire des dénis de service. C'est risible en termes de sécurité. Mais en plus, c'est vraiment l'impact politique international de dire ben ils peuvent faire de l'espionnage via cette entreprise-là. Quand tu as plusieurs gouvernements qui les bannissent, ils font pas ça pour rire. Là. Ils bloquent pas des millions puis des milliards pour faire une blague. C'est vrai qu'il y a un risque de voir que le plus grand événement de sécurité physique ignore totalement ça. Soit ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font, soit ils sont juste là pour l'argent. C'est dur à comprendre.
Et les impacts de tout ça dans la collectivité, Patrick, ça peut ressembler à quoi en ce moment? Est-ce que c'est justement le fait que ce partenariat-là a été fait, qu'on ouvre encore des portes à cette entreprise chinoise?
Exact, parce que pour ceux qui vont dans des événements, mais généralement, une salle ou un plancher, parce que tu as tous les partenaires. Donc, en tant que partenaire principal, évidemment, leur nom va être affiché partout. Ils vont avoir le plus gros kiosque. Les badges sont à leur nom. Ça fait que la visibilité, et il y a sûrement les présentations, les produits, etc., la visibilité est énorme pour l'entreprise. Donc, nécessairement, vont essayer de vendre des produits à des dizaines, voire des milliers d'entreprises au Canada. Ça fait que c'est un moyen de s'introduire encore plus dans nos entreprises. Pas parce que vous êtes une PME que vous n'êtes pas à risque. Ça a été démontré que les caméras installées n'importe où dans la guerre en Ukraine sont utilisées pour valider les endroits de la guerre, etc. Puis c'est des caméras genre du coin de la rue, d'un magasin ou personnel.
Qui sont réquisitionnés et utilisés, là.
Oui, exact. Ou sont juste attaqués. Le pays attaque l'autre pays de manière informatique pour prendre contrôle des caméras puis pouvoir stratégiquement bouger sans se faire remarquer, etc. Mm. Et ça veut dire que toutes ces caméras-là sont très vulnérables, là, si tu peux faire ça. Mm. Il y a beaucoup, beaucoup de risques, mais ça démontre qu'on a une incompréhension complète des risques en sécurité nationale, même au niveau des conférences de sécurité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui sont sur le board de cette organisation-là, il y a une grande majorité qui ne travaille pas vraiment en sécurité. C'est du monde qui travaille en entreprise, tout simplement.
Ouais, plutôt des gestionnaires. Puis peut-être qu'ils n'étaient pas au courant du tout, en fait. Ils se sont dit « Wow, un superbe partenaire pour nous qui est prêt à mettre énormément d'argent pour que notre événement se passe. » Puis qui ne consultent pas les nouvelles, qui ne se sont pas fait dire, justement, que AgVision a été banni au Québec.
Ça n'a pas de sens. Peu importe le domaine, que ce soit un jeu vidéo, tu fais un événement, tu invites un partenaire qui, partout dans les nouvelles, se fait dire qu'il est méchant pour peu importe la raison. C'est ridicule, là.
Oui, absolument. C'est à se poser des questions.
En espérant qu'il rectifie la solution puis qu'il s'explique, ou que quelqu'un les tasse de leur poste.
Les gestionnaires qui ont pris cette décision-là. Uh-huh. Autre nouvelle dans tout ce qui est sécurité informatique, oui, mais plutôt technologie maintenant, cette fois-ci. L'envol de l'intelligence artificielle en bourse, c'est une folie spectaculaire. On dit que c'est un enjeu de pouvoir. Pourquoi est-ce que ça fait tant réagir, l'intelligence artificielle en bourse?
Bien, si pour ceux qui font de la bourse, qui participent à ça, la majorité des actions effectuées sur le marché de la bourse sont déjà automatisées. Fait que ça, c'est tout des robots qui détectent les mouvements, la quantité d'argent, de transactions, peu importe, toutes les métriques, pour faire les transactions. Fait que c'est pas quelqu'un à Wall Street qui va tout gérer automatique, là. Ils ont tous des... On appelle ça plus des triggers, là. Fait que ils vont aller automatiser les transactions d'avant. Bien, depuis des années, évidemment, tout ce qui est machine learning puis intelligence artificielle, bien, ça va avec l'automatisation. Fait que pourquoi pas analyser le marché pour le rendre automatisé, basé sur l'analyse de l'intelligence artificielle pour faire des transactions. Fait que moi, je suis la bourse un peu juste sur Instagram et autres réseaux. Et puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la pub, si vous suivez ça, des entreprises qui se lancent là-dedans, c'est incroyable. Là. Il y en a sans fin. Il y a des milliers d'entreprises qui se lancent là-dedans. Puis c'est surtout le concept de faire de l'argent facile. Ben, c'est de l'intelligence artificielle, donc nécessairement le taux de succès est grand. Fait qu'on fait un lien un peu avec tout ce qui est des entreprises de Bitcoin qui a eu de la fraude, avec ces entreprises-là qui disent que c'est de l'argent facile. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de risques de que ce soit pas réellement de l'argent facile, qu'on peut perdre beaucoup d'argent. Mais en même temps, plus qu'il y a de robots qui agissent de manière un peu bizarre, c'est sûr que ça va avoir un effet sur le marché. Là.
On pourrait perdre un peu le seul contrôle, parce que pour le contrôle qu'on a en tant qu'humain là, derrière tout ça, là, qui est très minime, là, on pourrait le perdre au profit justement d'ordinateurs là, qui font un peu ce qu'ils souhaitent. C'est ça que tu veux dire?
Oui, puis quand on parle d'intelligence artificielle, le risque numéro un, c'est pas vraiment un risque de sécurité. Oui, tu as beaucoup de risques de sécurité, mais c'est généralement les mêmes risques que n'importe quelle autre application, plus 2-3 détails. Le risque, c'est les biais. Fait que la programmeur qui pense d'une certaine manière va introduire des erreurs dans la logique. Fait que c'est l'exemple qu'on donnait dans les derniers mois. Tu sais, c'est les caméras, quand il y a de l'analyse d'image, bien, quelqu'un qui est de race blanche va penser à faire des tests avec des personnes proches de lui au lieu de penser à toutes les races de la planète. Mm. Fait que les caméras sont pas capables de détecter comme chose. Bien, appliquer ce concept-là à la bourse, avec pas vraiment de personne qui comprend comment l'algorithme fonctionne, si de grandes entreprises, des grands gouvernements et autres s'en vont dans ces directions-là, ça peut avoir un effet bien bizarre, néfaste, on le sait pas.
Oui, c'est ça. Il est quand même encore louche, ce lien-là. Mais ça va être à surveiller, puis c'est pourquoi aussi que toutes les personnes qui travaillent en économie, en finance, gardent un petit droit de regard là, sur l'intégration de l'intelligence artificielle au niveau de la bourse. Terminons, Patrick, avec des campagnes contre le piratage qui ont finalement donné encore plus envie aux hommes de faire du piratage, en fait, télécharger illégalement. Pourquoi ça vous tente quand c'est rendu illégal puis qu'on en parle partout? Puis pourquoi c'est aussi genré? T'as-tu une réponse à ça?
Bien, plus ou moins, parce qu'évidemment, c'est très psychologie, là, l'article que tu m'as envoyé là-dessus, mais c'est vrai. Je n'aurais pas pensé que ça l'était peut-être moins du côté des femmes, mais en même temps, de notre côté, se faire dire non, je peux dire par défaut, ça va aller dans ce sens-là. Mais c'est aussi un concept de logique, parce que si on retourne au début des années 2000, où il n'y avait pas de service de streaming, ben fallait payer pour le câble qui était cher. Donc, il y avait beaucoup de copies, de vols, d'enregistrements dans les cinémas pour les télécharger des films gratuitement. Le streaming est apparu, ça a diminué énormément parce que la facilité du streaming pour un prix ridicule versus le câble a aidé à aller sur le streaming. Là, on se ramasse avec 10, 20, 50 plateformes de streaming. Au lieu d'être 10 $ par mois, ils sont toutes rendues à 20, 30. Puis, si tu veux voir une série, il faut que tu t'abonnes au moins à 4-5.
Donc, l'engouement du piratage a à voir avec ça.
Ben oui, c'est sûr, parce que, tu sais, si on veut couvrir la majorité des séries populaires, il faut nécessairement être sur au minimum 3-4 plateformes. Ça fait que ça revient plus cher que le câble. Ça fait qu'on retourne dans les années 2000 avec la logique, ben c'est trop cher. Donc, nécessairement, ben, on va les copier puis aller les télécharger.
Et si on télécharge illégalement, Patrick, en terminant, est-ce que il y a de forts impacts qui pourraient nous incommoder ou on n'est pas vraiment à risque d'avoir des représailles?
Il y en a un peu. C'est sûr qu'il faut faire attention. Généralement, ça se télécharge avec la technologie torrent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technologie qu'on appelle peer-to-peer, là, de point à point. Ça fait qu'il n'y a pas un serveur central qui héberge la donnée. C'est tout le monde qui la télécharge et qui la partage à tout le monde. Ça fait que s'il y a quelqu'un qui s'en va hors ligne, ben tout le monde continue pareil parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes sur le système. Ça fait que ça fonctionne bien. Mais évidemment, les compagnies d'Internet peuvent le détecter. Ça fait que si vous utilisez les torrents sans les algorithmes de chiffrement, il y a plein d'options là, à aller voir dans les settings. Il y a des options pour que ce soit plus sécuritaire. Vous pouvez passer par des VPN, etc. Ben, vous pourriez recevoir une note de Bell, Vidéotron et autres disant ben si vous continuez, on va fermer votre service, potentiellement envoyer ça à la police, blablabla. Ça arrive, c'est très, très, très rare. Dans notre communauté, j'ai peut-être vu ça une fois dans l'année.
Il n'y a pas vraiment de conséquences réelles.
C'est ça, non.
Okay.
Il peut en avoir, là. On peut être très malchanceux. C'est pas le risque zéro.
Mais c'est pas le nerf de la guerre non plus.
Okay, d'accord. Non, exact.
Merci beaucoup, Patrick Mathieu. C'est vraiment intéressant à chaque fois qu'on se parle. Rappelons-nous, en fait, de Hikvision, qui a été banni par le Québec, cette entreprise chinoise qui a, entre autres, des caméras dans leur magasin à acheter. Il y a beaucoup d'entreprises qui faisaient affaire avec Hikvision parce que le prix était bon, mais on avait de sérieux doutes quant à l'utilisation des données et aussi de la réquisition que le gouvernement chinois pouvait faire concernant les données outre-mer qui étaient récoltées. Puis c'est là qu'on s'est dit, au Québec, aux États-Unis, on va bannir Hikvision. Mais on a vu dans les derniers jours un grand rassemblement de firmes de protection, en fait, de sécurité. Là, on parle plus au niveau humain, avoir comme partenaire principal, commanditaire principal Hikvision. Et ça a quand même troublé une bonne partie des gens qui étaient. On se reparle la semaine prochaine, Patrick Mathieu, expert en sécurité informatique.
Yes, merci beaucoup.
Merci. Salut. Les Cowboys fringants, boulevard 101, c'est Rock Camisole dans vos oreilles. Vous me faites rire quand vous commencez à écrire sur les sujets puis que vous êtes tellement transparent que vous êtes en train d'en fait vous stouler vous-même, que vous avez déjà reçu ce genre de courriel, entre autres de vos utilisateurs web, que ce soit Vidéotron ou Bell, etc., parce que vous aviez fait du piratage illégal, du téléchargement illégal. Merci quand même, parce que c'est comme ça qu'on est au courant des vraies choses sur le terrain. Je ne sais pas si ça vous a dompté. Vous pouvez peut-être continuer d'écrire au 418-971-1021. Très important comme nouvelle hier, en fait, ce qui est sorti au sujet de l'hôtel de ville en ce moment. Alicia Despins qui a dénoncé un climat toxique à l'hôtel de ville de Québec. Alicia Despins, c'est qui? On l'avait connue dans le temps parce qu'elle était dans l'équipe La Bombe comme conseillère, en fait. Maintenant, elle est conseillère municipale de Vanier. Elle est membre de l'opposition et elle a déposé une plainte à la Commission municipale du Québec contre le chef de cabinet du maire Bruno Marchand. Et elle reproche à Clément Laberge, qui est ce chef de cabinet du maire, d'avoir laissé envenimer un genre de climat de travail présumément toxique à l'Hôtel de Ville de Québec. Elle dit, parce qu'elle est élue depuis 2017, alors ça fait pas juste un mois qu'elle y est, elle a vu beaucoup de choses, elle a parcouru plusieurs corridors, elle a fait affaire avec plusieurs conseillers municipaux. Elle dit que Clément Laberge a manqué à sa responsabilité sur le sentiment de sécurité des élus, du personnel, des citoyens à l'hôtel de ville. Depuis avril 2022, elle affirme, Alicia Despins, avoir fait plusieurs signalements au sujet d'événements qu'elle jugeait inacceptables, dont des comportements qu'on dit comme agressifs. Puis les dénonciations n'ont rien donné, en fait. C'est resté lettre morte, là. Et ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans l'actualité aujourd'hui, tellement qu'on vient de recevoir un communiqué, les médias, comme quoi le directeur général de la ville a convoqué des représentants des quatre partis politiques municipaux aujourd'hui. On veut en fait rassembler là, les trois chefs de cabinet des partis politiques, Québec d'abord, Québec forte et fière et Équipe Priorité Québec et l'attaché politique de Transition Québec pour faire le point sur la dite sécurité et le climat de travail au sein des équipes politiques à l'Hôtel de Ville. Donc, ça va se faire aujourd'hui. On a été rapide sur la gâchette quand même. En après-midi. Il n'y a pas de plainte formelle, on dit, qui a été faite à la direction générale de la ville jusqu'à maintenant. Pas de demande d'élu non plus qui concernait le climat de travail sur les récents événements, mais on dit qu'à la suite des allégations qui ont été formulées, donc celles, les allégations d'Alicia Despins, il y a le directeur général qui a jugé essentiel de rencontrer les différents partis pour justement parler de tout ça. Il y a un encadrement qui est prévu pour la conduite des élus. C'est précisé, en fait, dans un genre de code d'éthique qui est très, très connu des gens qui y travaillent, soit au municipal et ou en politique, mais du moins, il y a un code d'éthique. Et ne manquez pas ça, Alicia Despins sera avec nous dans Marceau le midi un petit peu plus tard aujourd'hui. En fait, on devrait la recevoir autour de midi, midi 20 pour parler de tout ça. On veut avoir des réponses, nous aussi, puis on veut savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe? On n'aura pas certainement des noms, là. J'ai pas l'impression qu'on va réussir à avoir des noms. Est-ce qu'on souhaite nécessairement les avoir? Bon, ça, c'est à suivre. Mais chose certaine, c'est que ce qu'on remarque en ce moment dans la politique, opinion personnelle, c'est le climat qui est plutôt émotif et non professionnel dans divers paliers. T'sais, je le vois au provincial, dans les corridors, dans les... c'est pas une altercation, mais dans les discussions, parfois entre ministres aussi, qui, auparavant, étaient, oui, parfois houleux, parfois on avait des discours plus différents, plus chauds, plus sanguins, mais émotifs au point où c'est des pointes basses lâchées dans les corridors ou par rapport à l'autre, ou surtout des communications qui sont coupées. Ça, je trouve ça vraiment difficile de voir ça en politique, là. Ça fait probablement deux fois que je vous en parle, mais c'est là où on se dit, ben, en politique, vous devez gérer vos conflits internes, vos émotions et vos discussions en étant toujours conscient que vous êtes représentant des citoyens et que vous avez cette parole-là pour faire avancer les choses. Donc, l'émotif, oui, peut avoir sa place, peut mener à bien des avancements, à des discussions importantes, mais pas au point où ça devient insoutenable et pas au point non plus où les canaux de communication doivent être coupés. Une des plus grandes scènes qui m'a subjuguée dans les dernières années, c'était le conflit entre Régis Labombe, maire de Québec, et le conflit entre Gilles Laulier, maire de Lévis, qui a empêché de nombreuses discussions sur le développement, justement, du transport et de l'interconnexion entre la Rive-Sud et la Rive-Nord. Et voyez-vous où on en est des années plus tard, en 2024? Rien. On n'a rien. On n'a pas de projet qui se valent. On est en pause sur, justement, tout ce qui est mobilité ici à Québec et à Lévis. Puis on a encore des difficultés de trafic, de congestion. Une chance que personne n'a dit ça, là, mais une chance que la pandémie est arrivée pour calmer un petit peu le vent chaud qui soufflait sur la capitale nationale, bien, Rive-Sud, Rive-Nord, en fait, la grande région ici, parce que bien, il y a des gens qui sont restés en télétravail, puis la circulation n'a pas été affectée à son comble, selon ce qui aurait pu être affecté à travers les dernières années. Mais remontons avant la pandémie. Je me souviens d'aller garder là, ma nièce de l'autre côté des ponts. Puis le matin, je partais à une heure qui était somme toute convenable de partir, puis même tôt, en fait, pour pour un matin, là, autour de 6h, 6h15, puis de réussir à traverser le pont, il était rendu 8h15. Donc, c'était une journée très congestionnée. À ce moment-là, là, ça avait été très problématique. Puis c'est justement, pour revenir aux communications politiques, quelque chose que je déplore. Se coucher le soir en se disant, moi, j'ai un chapeau qui m'a été octroyé par des votes, par la démocratie, par des gens qui ont voulu que je les représente, puis par mon côté émotif ou encore un peu immature, je ne m'assure pas que les canaux de communication soient toujours ouverts et où, si on a à scoltailler sur des idées, qu'on réussisse à scoltailler justement puis à avoir des discussions sur le cas. Mais bon, Alicia Despins, du côté de la mairie de Québec, en fait, elle n'est pas dans l'équipe en place, là, mais les conseillères municipales de Vanier, si on peut le dire, affirment, elle, qu'elle ne se sent pas particulièrement en sécurité à l'Hôtel de Ville. C'est quelque chose, pas particulièrement, même en sécurité. Donc, ça ne semble pas juste brasser, il semble avoir eu un petit peu plus. C'est ce qu'on va apprendre dans les prochaines heures, mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas vraiment contents et qui vont vouloir aller chercher plus de réponses au niveau de l'Hôtel de Ville. Puis je vous rappelle qu'Alicia Despins sera avec nous à midi 20 dans Marceau le midi. 40 heures semaine de Mathieu dans vos oreilles à Boulevard 102.1.
L'heure CV.
Quand je réfléchis, j'ai six cerveaux, en fait.
L'heure CV avec Pascal CV.
Boulevard 102.1.
Je vous avais dit que j'avais une paire de billets à vous donner pour la All Elite Wrestling qui s'arrête dans la ville de Québec. C'est le 27 mars prochain. Ouais, les lutteurs de Dynamite et de Rampage vont s'affronter au Centre Vidéotron. Entre autres, Chris Jericho, Kenny Omega, les Young Bucks seront sur place, bien sûr, plusieurs autres. Et celui que vous attendez aussi pour la toute première fois ici à Québec, l'assassin aérien Will Ospreay. Ne manquez pas ça au Centre Vidéotron. Je sais que beaucoup de billets ont déjà été achetés, en fait, sur gestef.com et Ticketmaster. Ça devient tellement populaire. Moi, ça me fascine à quel point c'est un spectacle que vous aimez. Alors, si vous voulez cette paire de billets-là gratuitement et pas juste en l'achetant au Ticketmaster.ca, hein, présentation de Live Nation, on sait où est-ce que ça se passe pour les acheter, mais c'est au 418-971-1021 dès maintenant. Dites-moi le nom d'un des lutteurs qui sera présent le 27 mars prochain au All Elite Wrestling dans la ville de Québec au Centre Vidéotron. 418-971-1021. Bonne chance à tout le monde. En attendant, Bob Bissonnette, mettre du tape sur ma palette.
RCV avec Pascal CV.
Je termine l'émission en vous rappelant qu'aujourd'hui, ben, si vous n'avez pas mis le nez dehors, c'est nuageux, c'est moins 2 degrés, ça reste chaud. C'est une belle journée pour aller courir dehors si jamais c'est votre sport. Je voyais que les trottoirs étaient somme toute dégagés, puis c'est pas trop froid. Ça peut même monter jusqu'à 1 degré avec une petite neige intermittente dans certains secteurs. Demain, vendredi, jusqu'à 4 et samedi, dimanche, ben là, on retourne sous la barre du zéro à moins 9 et moins 4 pour ces deux journées-là. L'hiver est très particulier cette année. Hein. On fait du ski de printemps depuis un mois maintenant. Il y a un enlèvement quand même à souligner. Là. Enlèvement au Saguenay, c'était Michael Chouinard qu'on recherchait. Et bon, c'est sûr que c'est super intense ce que je vais vous dire, mais il a été retrouvé avec un doigt et un orteil coupé à Montréal. Dans ce temps-là, c'est pas parce qu'il vit une vie calme et paisible. Là. Il a été victime d'un possible enlèvement qui serait lié au trafic de drogue et il a été retrouvé en pleine rue à Montréal dans la nuit de mercredi à jeudi, donc la nuit dernière. Il est sain et sauf dans la région de Montréal, mais voilà, il a été mutilé, il faut le dire. On le cherchait depuis un petit bout quand même, puis sa présence dans la rue a été signalée à la police parce qu'il a demandé l'aide à un conducteur qui passait à ce moment-là. Et la police de Montréal a confirmé avoir retrouvé l'homme qui était porté disparu. Là, on est encore en train de suggérer que c'était du crime organisé, en fait, qui est derrière cet enlèvement-là. Qu'est-ce qui tend à démontrer dans l'enquête, c'est qu'il y avait un grand risque pour la vie de cette personne-là, mais on est en train de gérer tout ça avec les gens qui devaient le gérer. Je vous rappelle que Québec va présenter son budget le 12 mars 2024, budget 2024, celui du ministre des Finances, Éric Girard. On sait d'avance qu'il est déficitaire. assez déficitaire, oui. Les priorités sont à la santé et l'éducation. Déficit, comme je vous disais, qui est revu à la baisse, mais c'était quelque chose qu'on avait déjà envisagé. On le savait que ça allait arriver. On met quand même le doigt sur les négociations dans les secteurs publics, là, comme quoi ça coûtait plus cher, puis là, c'est plus déficitaire à cause de ça. Un drôle d'argument quand même, là, les conventions collectives étaient échouées depuis un petit bout. C'est normal qu'il fallait les retravailler puis ajuster les salaires en conséquence. Mais ça fait partie du dit budget qui sera présenté, comme je vous disais, le 12 mars prochain. Et je termine aussi en nouvelles sur la restauration, le monde de la restauration. Y allez-vous encore assez au restaurant? Est-ce que vous avez fortement diminué? Quand on s'était parlé à l'automne, c'était le cas, vous aviez fortement diminué votre consommation là, de visites dans les restaurants. Puis ça a des impacts majeurs, en fait, sur ces 10 restaurants. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est le groupe Toqué du chef réputé, chef Normand Laprise, doit près de 7,5 millions de dollars à ses fournisseurs. On dit qu'il y a 3 de ces entreprises qui sont passées et se sont placées à l'abri de leurs créanciers en vertu de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Mais ça, il n'est pas le seul. Hein. Il n'est pas le seul à trouver ça très, très difficile ces jours-ci. La restauration, moi, j'entends des restaurateurs essayer d'aiguiser un peu là, leur plan et leur stratégie pour la suite ici à Québec, s'assurer de rester ouvert. Mais beaucoup de créanciers, en fait, qui est dans la liste pour le Toqué, là, pour M. Laprise, des distributeurs de fromage, de fruits et légumes, d'équipements de cuisine, des vignobles, des banques. C'est pas facile. On dit même qu'il y a le laveur de vitres et l'aiguiseur de couteau qui n'ont pas été payés. Des entreprises du groupe Toqué qui doivent également là, des milliers de dollars liés à un prêt de Revenu Québec, puis un autre de Développement économique Canada. Fait que quand on commence à ne pas se payer comme ça, c'est une roue qui tourne. Puis finalement, tout le monde peut tomber dans cette roue-là. Et le groupe de restauration qui avait annoncé la fermeture de ces 5 établissements de la brasserie T, ça c'est à Montréal, Sainte-Thérèse, Brossard. C'est 130 personnes qui avaient perdu leur emploi. Là, c'est le restaurant haut de gamme, très connu, oui, Toqué, qui est, lui, dans l'édifice de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Là, il y a encore les portes ouvertes. Là. Il y a eu une pause pendant les fêtes, mais quand même, il va falloir revoir la stratégie financière. Normand Laprise, qui est dans le journal aujourd'hui, mais qui est un des représentants, en fait, pour beaucoup de restaurateurs qui vivent avec des grandes difficultés en ce moment. Je sais, vous commentez en ce moment les restos. Moi, j'y vais encore, mais j'ai diminué énormément. Je préfère faire mon café à la maison, faire des repas à la maison parce que, justement, je n'ai plus le budget, mais j'ai pas envie que mes restos favoris ferment. Des gens qui ont beaucoup d'empathie aussi envers, M. Laprise, là. Je sais qu'il est très connu à cause de l'émission Les Chefs, puis on l'aime, il est attachant. On n'aime pas ça, savoir quelqu'un qu'on connaît, puis qu'on aime, puis qu'on apprécie, qui est dans l'eau chaude. Mais voilà, l'industrie de la restauration qui en arrache un petit peu plus. On les a beaucoup encouragés en pandémie, mais on avait encore cet argent-là. L'inflation n'était pas quotidiennement un mot dans notre langage, dans notre vocabulaire à ce moment-là. Fait que je sais que tout le monde y voit une petite contrainte, soit d'encourager les gens qu'on aime. J'espère qu'il n'y aura pas trop de restaurants ici à Québec qui vont fermer vu cette problématique-là, mais je sais que c'est énormément discuté ces jours-ci. Hey, à tout de suite dans Marceau le midi. Marceau s'en vient. Tom Gauthier sera là également. On a une feuille de route fort chargée aujourd'hui pour vous. On est bien content d'être avec vous pour l'heure de lunch. Restez là, on revient.
Monsieur Legault, on peut pas